Donc, eh bien, effectivement, je vais vous présenter ce que serait l'informatique de l'ENS de Cachan, en me focalisant plus précisément sur le centre de ressources informatiques dont je fais partie, et sur l'utilisation que nous avons déjà depuis de longues années des logiciels libres dans notre infrastructure informatique. Et nous verrons, et j'en parlerai un petit peu plus précisément, de l'utilisation que nous avons pour les technologies de routage. Donc, je fais partie du centre de ressources informatiques de l'ENS de Cachan. Alors, qu'est-ce que l'ENS de Cachan? C'est 1200 élèves, 17 départements, 12 laboratoires, 16 services administratifs. Ça n'est pas négligeable, surtout par rapport au nombre d'utilisateurs et le temps qu'ils requièrent par rapport à toutes nos interventions. Et trois entités externes que nous hébergeons, le lycée Maximilien Sorre, le lycée Gustave Eiffel, qui font tous les deux partie de l'ancien Centre national d'enseignement technique, et le CRANS, dont beaucoup d'entre vous font partie. Alors, effectivement, que mettons-nous à votre disposition pour vous donner un accès ou les services les meilleurs possibles au sein de l'ENS Cachan? Alors, nous avons deux dorsales, dont une est en train de mourir, la dorsale ATM, qui a vécu pendant presque 5 ans. Nous avons également une dorsale gigabit qui s'est développée depuis le premier trimestre 2003 et qui maintenant est arrivée quasiment à son déploiement complet. Une classe B publique depuis très longtemps sur Enater qui nous permet de ne pas du tout avoir les problématiques d'adressage qu'ont beaucoup d'autres sites en France, puisqu'ils sont généralement limités à une ou deux classes C. Nous avons une possibilité de 65 000 adresses, grosso modo. On a à l'heure actuelle une connexion à 100 mégabits sur Enater, ce qui permet à la fois de servir 12,5 mégaoctets-secondes sur l'extérieur, tout comme nous pouvons récupérer sur la communauté Renater à ce même débit. Alors, effectivement, nous sommes également connectés sur un réseau de plaques qui s'appelle le réseau Ruby, qui héberge notamment l'école centrale de Paris, dont un élève vient de faire une conférence sur Vidéolan. Et nous allons avoir bientôt, pour l'instant, nous sommes limités pour les échanges avec le CP à 100 mégabits, limité par l'interface de notre routeur. Nous allons bientôt passer sur un routeur gigabit sur notre pad de sortie sur le réseau Ruby. Alors, qu'est-ce que cela représente en nombre de postes utilisateurs? Ça représente autour de 1 000 postes qui sont directement sous la responsabilité du CRI. Nous avons eu assez tôt une politique de délégation vis-à-vis des entités qui étaient capables d'administrer eux-mêmes leur réseau. Nous administrons 20 serveurs et 60 équipements actifs réseau. Parmi ces 60 équipements actifs, nous avons 5 routeurs qui sont des routeurs sous Linux. Et pour administrer tout ça, nous avons 3 BOFH. Certains d'entre vous doivent rigoler et effectivement doivent connaître la signification de ce terme-là. Bon, ben, ensemble, c'est ces personnes sur lesquelles on veut s'y faire volontiers dès qu'un problème survient. Alors, au centre de notre... Ah, oui, quand il veut. Au centre... Zzz, dommage. Au centre de notre infrastructure, nous avons l'utilisateur. Autour de lui, la seule perception qu'il a de l'informatique est souvent son poste de travail. Il accède à des services pour lui qui sont relativement nébuleux, tels que l'accès à Internet ou la messagerie électronique. Et la partie réseau est la partie dont il a le moins conscience, puisque généralement, dès qu'il n'arrive pas à relever sa messagerie électronique, il dit que c'est un problème réseau. Donc, effectivement, pourquoi est-ce que je présente cette cible? C'est tout simplement pour montrer l'éloignement, je dirais, de perception qu'il y a entre l'utilisateur et les services réseau sur lesquels je m'appesantirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, transversalement à ces trois aspects que sont le poste de travail, les services et les réseaux, nous avons trois éléments. Nous avons la supervision qui est chargée de savoir si tous ces services fonctionnent, la sécurité et la qualité de service que nous pouvons associer à ces différents services ou réseaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous avons vu que nous avions trois parties dans notre infrastructure informatique: les réseaux, les services et les postes utilisateurs. Imaginons que nous supprimions brutalement tout ce qui est logiciel libre dans notre infrastructure utilisateur, dans notre infrastructure informatique. Alors, tout d'abord, il n'y aurait aucun poste de travail chez les administrateurs du CRI, parce qu'effectivement, autant que faire se peut, nous utilisons des GNU Linux ou Debian. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici parmi vous, pour pouvoir administrer ce réseau. Nous n'aurions quasiment aucun poste au laboratoire de mécanique et technologie, ni au département de mathématiques, puisque ce sont des gros utilisateurs de stations sous Unix, et ils sont passés progressivement sur des stations sous Linux pour des questions évidemment de coûts, à la fois au niveau matériel et de licence des systèmes d'exploitation. sous Linux. Et nous n'aurions aucun navigateur fiable que nous installons systématiquement, quelles que soient les architectures. Effectivement, fiable, j'entends par rapport à tout ce dont nous avons été victimes ces derniers mois, par rapport aux trous de sécurité divers et variés qui ont été découverts. Alors, parmi les services, là aussi, le bilan serait assez catastrophique si on devait supprimer tous nos logiciels libres, puisque nous n'aurions plus aucune messagerie. Toute notre messagerie est basée sur des outils libres, à la fois en émission, mais aussi en serveur pour la réception, c'est-à-dire pour le poste de travail, puisque nous utilisons PostFix, SendMail, les outils de l'Université de Washington, les outils Cyrus. Nous n'aurions plus aucune résolution de nom, donc effectivement, il faudra aller sur Internet directement en tapant les adresses IP, si on pouvait encore y aller, puisque nous utilisons Bind. Nous avons également un annuaire LDAP. Nous avons fait le choix, dès l'origine, d'utiliser les fonctionnalités du projet OpenLDAP pour cet annuaire LDAP. Donc, plus d'annuaire LDAP, donc plus d'authentification centralisée dans nos postes de travail. Nous n'aurions plus aucun accès Internet, je dirais, service traditionnel, www ou FTP, puisque là aussi, nous utilisons les serveurs Apache, Squid et ProFTPD. Alors, nous utilisons un proxy transparent, qui n'est pas destiné aux utilisateurs du CRANS, mais à tous les utilisateurs de l'ENS cachant, de manière à dérouter autant que faire se peut les services web vers ce proxy cache pour être beaucoup plus efficace sur notre connectivité 3W. Effectivement, plus aucun également serveur de disque, puisque les serveurs NFS, Samba et NetTalk qui servent autant les Macintosh que les machines Windows ou les machines Unix qui font du partage des portées de ressources, eh bien, utilisent aussi des outils libres. Et nous aurions moins de bases de données, là je dis plus de bases de données, nous aurions moins de bases de données puisque nous n'aurions plus de bases PostgreSQL ou MySQL que nous utilisons assez fréquemment pour quelques applications. Malheureusement, je dirais que c'est un petit peu un point qu'il est très difficile d'éliminer. Nous utilisons beaucoup les bases de données Oracle qui nous sont plus ou moins imposées pour certaines applications administratives. Je dirais que là où ce serait le pire pour les utilisateurs, ce serait au niveau réseau, puisqu'il n'y aurait plus aucun routage, puisque tous nos routeurs sont des routeurs sous Linux. Généralement, quand on va sur un site, qu'on demande comment va votre routeur, on dit comment va votre Cisco, eh bien, nous avons supprimé depuis maintenant plus de 2 ans et demi tout ce qui est routeur propriétaire au niveau du CRI, pour des raisons de coût et aussi pour des raisons de rapidité d'intervention. Je dirais que c'est issu de la première expérience de panne que j'ai eue à l'ENS Cachan il y a 4 ans. On a notre routeur de tête qui est tombé en panne, il est devenu une brique, nous n'avons pu rien faire jusqu'à ce que la maintenance vienne nous le remplacer. Avec un routeur Linux, c'est arrivé une fois pour une entité, un disque a craché, nous avons pu rétablir complètement le service avec un routeur tout neuf en moins d'1 heure. Donc ça permet une réactivité bien supérieure d'avoir ce qu'on appelle un routeur générique. Alors effectivement, nous n'aurions plus non plus de routage dynamique. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un site où certaines responsabilités ont été déléguées, notamment certaines zones se routent elles-mêmes. Et donc, pour pouvoir communiquer et interopérer avec ces différentes zones, nous avons mis en place un routage dynamique qui est réalisé à l'aide d'un outil libre sous Linux. Et également, plus de routage AppleTalk pour pouvoir permettre aux zones AppleTalk des différents départements de communiquer les unes avec les autres. Alors, d'un point de vue sécurité maintenant, nous n'aurions plus aucun filtrage, puisque là, nous utilisons les outils Netfilter, IPTable, pour pouvoir réaliser les filtrages des différentes zones qui sont sous notre responsabilité. Nous n'aurions plus aucun protocole sécurisé standard, à savoir les outils SSL, OpenSSL ou OpenSSH, et plus aucune sauvegarde, parce qu'effectivement, nous utilisons les outils traditionnels d'archivage, mais nous utilisons les protocoles sécurisés pour pouvoir passer ces données à sauvegarder. Dans le cadre du lissage de trafic, là aussi, nous utilisons des outils libres, ce qui permet d'avoir des outils qui sont équivalents à des outils commerciaux qui valent extrêmement cher. C'est-à-dire que pour une machine que vous sortez quasiment d'une poubelle, sur laquelle vous mettez 2 cartes réseau, mais vous êtes capable d'avoir un outil qui est de la même qualité qu'une machine qui vaut entre 50 et 100 000 francs. D'un point de vue supervision, là aussi, nous confions toute la supervision ou presque à du logiciel libre, notamment les démons SNMP. Nous supervisons tout ce qui peut être supervisable. Ça va de l'état des onduleurs aux différents composants matériels qu'on peut trouver à l'intérieur des PC, comme la température du disque dur, la température du processeur, de la carte mère, la vitesse du ventilateur. Ce sont des informations qui sont très intéressantes et très importantes quand il s'agit d'intervenir et de manière préventive sur un ventilateur, puisqu'il a des signes avant-coureurs au niveau supervision qui sont très significatifs. Plus aucune métrologie, de manière à redistribuer aussi, je dirais, aussi correctement que possible les consommations auprès des départements. Nous loguons tout et nous faisons ensuite une comptabilité. Alors nous loguons à l'aide de l'outil NetAct qui nous permet ensuite de dire tel département a consommé tant de pourcents de bande passante, donc tant de pourcents de consommation totale, donc on lui refacture au prorata de sa consommation avec d'autres critères. Là aussi, au niveau présentation, toujours des outils libres. L'outil MRTG que nous avons un petit peu détourné de sa vocation originelle, qui était uniquement la supervision des interfaces réseau, pour lui associer tout ce qui est supervision de différents composants matériels. Donc vous voyez, il ne resterait plus grand-chose. Alors qu'est-ce qu'il resterait? Alors au niveau des postes de travail, et là je dirais que c'est le principal problème, les postes de travail sont encore peu sous Linux, surtout au niveau de l'administration. On a effectivement le LSV, on a le LMT qui sont massivement sous Linux. On a les départements de mathématiques, mais toute la part, beaucoup de départements qui sont dans les sciences molles ou dans ou les départements administratifs ou d'autres n'ont pas encore cette culture Unix et donc sont encore massivement sous Windows. Alors les postes Mac, avec une stabilité pas terrible quand on est sur des systèmes relativement anciens. Alors sur les serveurs, qu'est-ce qui resterait sur les serveurs? Alors il resterait le serveur de la comptabilité, là c'est un HPUX. Avec des outils qui nous sont imposés par une agence dite de modernisation des universités. Là, on nous impose les outils, on n'a pas véritablement la possibilité d'aller contre. Le serveur de la scolarité, qui est, je dirais, de la responsabilité d'une personne du CRI qui ne veut pas entendre parler de logiciels libres. Le serveur de gestion de badge, c'est un cas un peu à part, parce que là aussi, c'est une technologie qui est très propriétaire, donc c'était très difficile de demander à l'entreprise de nous faire un produit sur mesure rien que pour nous. Et le serveur de gestion du temps de travail, là aussi, c'est un serveur sur Windows 2000 qu'on n'a pas réussi à supprimer, ce sera assez difficile. Donc vous voyez, il ne resterait pas grand-chose, vous voyez. Hein. Alors qu'est-ce qui resterait au niveau du réseau? Un réseau ouvert, parce qu'il n'y aurait plus aucune protection. Des équipements sans protection et une dépendance totale. Si effectivement nous cherchions à revenir dans une architecture informatique comme il y en existe énormément, c'est-à-dire sans utiliser le logiciel libre, en utilisant des solutions très propriétaires, eh bien ça nous coûterait effectivement les yeux de la tête puisqu'on serait obligé de se tourner vers les trois leaders du marché sur les trois domaines que sont les systèmes d'exploitation, les routeurs et les bases de données que sont Microsoft, et Cisco et Oracle. Voilà à peu près ce qui arriverait si jamais on était obligé de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir sans les logiciels libres. Alors maintenant, je vais un petit peu plus développer un aspect qui me tient à cœur, c'est les routeurs génériques. Nous avons justement, suite à la panne que je viens d'évoquer tout à l'heure, décidé de reprendre en main, d'un certain sens, de reprendre la main sur notre réseau, en développant notre propre routeur. Alors, qu'est-ce qu'un routeur générique? Alors, c'est un routeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Là, il est en train de calculer l'image. Vous voyez le processeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un routeur générique? Vous voyez une image. Alors, on n'est pas des fous, puisque en regardant dans une page de ce mois-ci de la revue Linux Journal, eh bien, on voit une société très sérieuse américaine qui propose des routeurs sous Linux, et qui paye même la comparaison, je pourrais vous montrer plus précisément en bas à gauche, de faire la comparaison par rapport au Cisco. Ils disent, moi je vous vends ça $21,000, chez Cisco, si vous achetiez pareil, ça coûterait $75,000. Et là, pour trois propositions. Alors, qu'est-ce qu'un routeur générique? C'est qu'on pourrait faire le parallèle avec le médicament générique. Donc, un médicament générique, la même molécule, le même effet biologique, un prix inférieur, généralement, d'un facteur 2, et la liberté pour le choix du laboratoire. Le routeur générique, si on effectue le même parallèle, quel est-il? Eh bien, il respecte les mêmes standards, les standards Internet qui sont donnés par les RFC, les Request for Comment. Il dispose donc par ce même standard de la même interopérabilité. Et là, effectivement, au niveau des différences de prix, on a des facteurs 4 en facteur 20, Facteur 4, c'est pour ces routeurs-là. Facteur 20, c'est quand nous les intégrons nous-mêmes. Alors évidemment, une liberté pour l'intégration. Pourquoi? Eh bien parce qu'il suffit que je prenne un PC de bureau, que je lui mette des cartes réseau à l'intérieur, une ou plusieurs, une seule maintenant si on a du gigabit, et que je me crée un routeur qui est capable de rivaliser avec n'importe quel routeur commercial. Alors effectivement, nous avons, je dirais, trois générations de routeurs génériques. 9 machines ont été déployées sur 3 ans. C'était des machines déclassées. Alors j'entends déclassées parce que vous voyez que c'était des petites machines, des Pentium 200. La seule contrainte que nous avons mise, c'était de pouvoir mettre 4 cartes PCI à l'intérieur. Alors effectivement, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de cet aspect-là. Nous utilisons un routage dynamique et nous effectuons un routage Apple Talk. Alors ces routeurs avaient la possibilité, étant donné qu'ils n'étaient pas extrêmement chargés, d'effectuer un certain nombre de services, notamment les services de serveurs DHCP pour une configuration plus facile des machines. Et ils utilisaient donc les outils de filtrage du dernier noyau de 4, à savoir les NetFilter, avec les modules state pour le filtrage d'état, qui est, je dirais, à l'heure actuelle indispensable pour disposer d'un outil de filtrage un petit peu, je dirais, performant. Limite pour les limitations pour éviter les dénis de service. Multiporte pour avoir des configurations de filtrage assez courtes. Et MAC pour effectuer une correspondance entre adresse IP et adresse MAC pour éviter que des petits malins usurpent trop facilement les adresses IP d'un réseau pour pouvoir sortir sur le réseau sans y être invité. Bon, évidemment, c'est assez facilement contournable. Alors les performances, je dirais que pour ces machines qui sont de performance assez modeste, eh bien on avait 90 mégabits en routage pur. Ça correspondait en gros à deux fois la capacité d'un Cisco. Un Cisco qui valait entre 15 et 20 000 francs. Et 70 mégabits en filtrage d'état, c'est-à-dire quand on activait effectivement tous les filtres. Donc on se retrouvait avec une machine d'un prix vraiment ridicule. En gros le prix des cartes réseau, puisque je vous rappelle qu'on l'a sorti d'une poubelle en fait. Eh bien, on se retrouvait à avoir un routeur qui était parfaitement adapté. Alors, il y a eu d'autres routeurs qui sont sortis et qui cherchaient le plus possible à utiliser la dorsale ATM que nous avions mise en place. Et ça a été la deuxième génération du routeur du cran, ça a été équipé justement d'une carte ATM. Alors, l'ATM, toujours du routage sous OSPF. Alors, sous BGP, là, ça a été effectivement... On a déclenché lors d'une présentation aux dernières journées réseau 2001 et une certaine surprise quand on a dit qu'on faisait carrément nos annonces BGP, qui sont en fait généralement réservées au réseau d'opérateurs. Quand on a dit qu'on faisait ça avec un PC sous Linux et quand d'autres ont dit qu'ils le faisaient également, ça a suscité beaucoup de questions de personnes qui en avaient un petit peu marre d'avoir une rente vis-à-vis de certains constructeurs réseau que j'ai déjà cités tout à l'heure. Donc, effectivement, ces routeurs-là devait supporter un ATM matériel et puis certaines fonctionnalités d'ATM un petit peu plus logicielles. Et ces machines sous Linux se sortaient très bien de ce type de tâches. Alors, l'avantage, effectivement, du LAN que j'ai évoqué là, c'est que vous avez une seule interface et vous êtes capable, sur cette seule interface, d'avoir plusieurs interfaces logiques. Donc, au lieu d'avoir plusieurs interfaces réseau dans une même machine, eh bien, vous avez une seule interface et tout se passe comme si, à travers ce lien, vous aviez plusieurs réseaux logiques qui circulaient. Donc, plus besoin d'avoir X cartes dans votre machine pour faire un routeur. Alors, la deuxième génération, donc, elle a été issue du remplacement de l'ATM par le gigabit Ethernet cette année. On a donc choisi pas de sortir des PC des poubelles ou alors de PC de bureau qui étaient déclassés, mais là, carrément, de prendre des machines qu'on qualifiera de sérieuses, de prendre parce qu'on comptait leur faire faire un certain nombre de tâches complémentaires et qu'on comptait surtout supprimer 9 machines et les remplacer par une seule. Donc, pour cela, il fallait être sûr qu'elles ne soient pas complètement sous-dimensionnées. Alors, nous avons pris, effectivement, des machines un petit peu plus musclées que celles que j'ai citées tout à l'heure. Elles ont aussi un nombre de services plus important. Elles sont toujours serveurs DHCP, mais elles servent également de serveurs DNS secondaires. Et elles servent également de serveurs NTP secondaires pour les personnes qui veulent toujours avoir l'heure sur leur PC. Donc, alors effectivement, là aussi, fonctionnalité très spécifique, surtout sur un routeur qui remplace 8 autres routeurs, c'est le 802.1Q qui permet de faire l'équivalent de ce que je viens d'évoquer sur le LAN émulé d'ATM. c'est-à-dire que vous avez une seule carte gigabit, et à l'heure actuelle, sur cette carte gigabit du routeur Styx, de l'ENS Cachambre, eh bien, 26 interfaces logiques cohabitent dessus. Et en routage, en performance, là, je n'ai pas fait véritablement de test, j'ai juste fait un test brutal en faisant un gros téléchargement d'une image de CD-ROM entre deux machines, c'est-à-dire dans le pire des cas, et en étant véritablement un petit peu gêné par les équipements actifs réseau qui pouvaient être sur le parcours, j'avais des performances supérieures à, je dirais, un tiers de la bande passante maximale que je pouvais avoir avec cet équipement. J'avais ça au niveau de ma connexion, c'est-à-dire que j'avais 350 Mbps au niveau de la connexion lorsque j'ai fait mon test, sachant qu'il servait également 200 à 300 utilisateurs simultanément. Donc ça donne des performances, cette génération de routeurs donne des performances qui sont très comparables à celles des routeurs commerciaux dont je ne vous donnerai pas le prix parce que généralement ça se chiffre autour de, allez on va dire, c'est au moins 100 kilo-euros, sachant que c'est souvent un petit peu à la tête du client chez les constructeurs que je viens d'évoquer tout à l'heure. Alors, au niveau des réseaux, alors effectivement, on va compte transformer au fur et à mesure notre réseau pour des raisons de sécurité en, je dirais, presque en relais applicatif. Il y aura aussi l'intégration des futures technologies réseau de chiffrement et de IPv6. Et là, un point qui reste encore un petit peu pénible à mettre en place sur un routeur Linux, c'est le routage multicast qui permet de faire, par exemple, de la diffusion de vidéos sur un large réseau. Donc ça, eh bien, il faut bien avouer que le routage sous Linux, uniquement avec les outils libres, reste assez vert, on va dire. Il a des possibilités d'acheter des outils commerciaux qui fonctionnent sous Linux, notamment le projet ZebOS, mais on ne l'a pas, pour l'instant pas encore mis en place. Alors effectivement, si vous regardez, là, c'est un 01 informatique me tend la perche, cette semaine, vous avez un 01 informatique justement sur Linux, sur le poste de travail, ou les logiciels libres sur le poste de travail. Je dirais que c'est effectivement agir le plus possible pour développer Linux sur le poste de travail tout en laissant aux personnes la possibilité de pouvoir utiliser les outils Windows s'ils le souhaitent. Et ça, ça va par une généralisation de l'utilisation de Windows Terminal Server et l'utilisation d'un client Windows Terminal Server sur les postes de travail. Donc ils auront le choix entre utiliser OpenOffice très rapidement sur leur machine locale ou alors utiliser Windows Terminal Server avec Word, etc. et puis que ça va ramer parce qu'ils seront très 50 à vouloir faire la même chose. Donc c'est un petit peu essayer d'utiliser cette technique pour convertir les personnes au fur et à mesure au logiciel libre. Alors effectivement, pour les services, le passage vers une nouvelle gestion de l'information va être initié par notre futur directrice du centre de ressources informatiques qui va utiliser un outil de système d'information de La Rochelle dont les méthodes de développement se rapprochent pas mal des modes de développement des logiciels libres. Donc on espère que ça sera un élément supplémentaire pour que l'esprit justement des logiciels libres continue à se développer au niveau de l'ENS Cachan et qu'on ne soit pas systématiquement pris pour des trubillons qui cherchent à imposer aux gens l'utilisation d'outils dont ils ne veulent pas. Alors pour les postes de travail, ben voilà ce que je citais. Effectivement, si vous prenez le dernier 01 informatique sur Linux sur le poste de travail, eh bien ils vous donneront un aperçu assez significatif de ce qui a été déjà réalisé et de ce que nous cherchons un petit peu à mettre en place. Malheureusement, tout cela ne peut se réaliser que si nous réussissons à former les utilisateurs et s'ils veulent bien utiliser ces outils-là. Alors effectivement, petit bilan, d'abord financier. Alors au niveau réseau et services, vous voyez autour de 2 millions de francs ou 300 kg d'économisés sur 3 ans par la suppression de tous les contrats de maintenance, par le remplacement et donc le non-achat de solutions propriétaires. Nous avons économisé des sommes assez substantielles. Alors effectivement, nous sommes également libérés, et pour nous c'était assez fondamental, nous sommes libérés de tous les contrats de maintenance qui grévaient assez singulièrement notre budget. Également, au niveau, je dirais, du bilan humain, alors là, ça, au moment de conclure, c'est toujours assez difficile de parler de cet élément-là. Mettre les mains dans le cambouis, les gens créer une machine, la développer, etc., ça semble un petit peu de l'expérimental. Il y a des périodes de transition, des périodes de mise en route qui sont souvent assez peu appréciées de certains utilisateurs. ils n'admettent pas qu'un outil puisse être, ne pas être parfait dès qu'on le met en route. Malheureusement, c'est quand le mettant en route et en le confrontant véritablement à une situation d'utilisation réelle qu'on découvre qu'il y a des dysfonctionnements. Alors ça, ce comportement est souvent notre comportement qui consiste à mettre ces outils en place est souvent assimilé à du bricolage. Malheureusement, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que la majorité des éditeurs commerciaux, eh bien, eux aussi font du bricolage et sortent un produit qui n'est jamais rarement fini. Allez acheter un PC à Carrefour, installez-le chez vous, essayez de faire la première mise à jour du système, que je ne citerai pas, eh bien, vous allez voir le nombre de mégaoctets qu'il va télécharger. La dernière fois que je l'ai fait, ça a été 70 mégaoctets. Donc, est-ce que ce n'est pas un système qui est un petit peu vert que vous avez acheté et une heure avant dans le Carrefour? Donc, également, changer les esprits. Changer les esprits, ça, c'est un discours récurrent qu'on a de beaucoup de personnes. Et malheureusement, ça fait 8 ans que je fais du logiciel libre de manière assez intensive. Et malheureusement, cette notion reste encore assez vivace. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est mauvais. Les gens imaginent que ce qui est gratuit, bon, il n'y a aucune maintenance dessus, etc. Et à l'heure actuelle, il y a quelques années, on disait que les logiciels libres n'étaient pas pérennes. À l'heure actuelle, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est IBM, IBM dit que le seul mode pour permettre à un logiciel d'être pérenne, c'est justement de libérer son code source. Quand on connaît la politique d'IBM en matière de propriété intellectuelle, et notamment du nombre de brevets qu'il dépose, eh bien, on peut se dire que, effectivement, s'ils font ça et qu'ils sont obligés de le faire, c'est qu'il y a peut-être une raison. Également, et là je voudrais un petit peu rendre un hommage à Pierre Bazard, c'est qu'il nous a laissé, lorsque nous avons décidé de mettre en place ces logiciels libres à l'ENS Cachan et de manière très très déployée, eh bien, il nous a laissé carte blanche. Pour lui, la seule chose qu'il fallait, c'est que ça marche. Et grâce à ça, eh bien, ça nous a véritablement permis de pouvoir faire certes des expérimentations, certes gêner de temps en temps les utilisateurs, mais de devenir maintenant, un petit peu autonome et d'avoir eu cette chose-là. Avoir eu un directeur qui prenne des risques comme ça vis-à-vis de certaines solutions, c'est relativement rare. Généralement, un directeur de ressources informatiques sera très conservateur et ne risquera pas sa place sur justement des solutions qu'il ne maîtrisera pas complètement. Et là, grâce au logiciel libre, eh bien, il a pu montrer qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Alors, au niveau des difficultés, là, c'est là que je viens, et c'est là que je conclurai. Au niveau du poste de travail, le principal point reste la formation des utilisateurs. Et je dirais que c'est la formation des utilisateurs, qu'il s'agisse d'outils libres ou autres. Les gens se retrouvent devant un PC, n'ont jamais eu aucune formation là-dessus. Alors, il suffit de leur changer, par exemple, leur version de produits commerciaux même, pour qu'ils ne puissent plus s'y retrouver. Donc, à l'heure actuelle, la formation des utilisateurs et notamment des personnels administratifs reste un point crucial pour permettre à l'utilisation des logiciels libres de se développer. C'est uniquement en les prenant par la main, en leur faisant une formation et leur montrant qu'utiliser OpenOffice, c'est pareil qu'utiliser Word, qu'ils commenceront à utiliser OpenOffice. Et pour le développement, je conclurai que malheureusement, quand je parlais des 3 BOFH, on n'est pas que 3 au CRI. Il y a des développeurs au CRI qui, malheureusement, ne veulent pas entendre parler des logiciels libres. Et c'est toujours assez difficile d'avoir à convaincre une personne qui, elle, commence à installer des solutions qui ne sont pas, malheureusement, pour lesquelles nous n'avons pas nécessairement d'a priori favorable. Et ça grève un petit peu, puisque justement ce développeur est chargé de mettre en place des solutions qui lui sont demandées par les utilisateurs, eh bien, ces solutions finissent par être utilisées, et après lui dire « maintenant tu vas casser ça parce que c'est vraiment pas sécure et qu'il faut passer sur autre chose de plus sérieux », eh bien, ça c'est difficile parce que les utilisateurs doivent changer leurs habitudes, et là, on se retrouve dans le même cadre de la formation des utilisateurs. Donc voilà, merci pour votre écoute. Et puis là, maintenant, si vous avez des questions qui fâchent, n'hésitez pas. D'accord, pas de questions? Vous pouvez y aller, Bon. Alors, on m'a chargé d'annoncer que, normalement, je ne sais pas si c'est fait depuis que je suis ici, normalement, l'ENS offre le repas de midi et donc un buffet vous sera offert en sortant maintenant à l'extérieur. Voilà. Donc, eh bien, bonne continuation pour cette journée.